À l'âge de 11 ans, j'arrivais au Bangladesh, où mon père devint ambassadeur. Le contraste New York-Dhaka égalait celui qui opposait Pékin à New York. Au Bangladesh, régnait la mort, causée par la faim, la maladie et les variantes de la misère. Dès l'aéroport, je vis un grand nombre de vautours et de corneilles mantelées. Nous habitions un genre de bunker entouré d'un jardin exigu. Il y avait des arbres et donc des oiseaux. Je fis connaissance. Dhaka, comme le Bangladesh entier, était sillonné d'eau, que ce fût le Gange ou l'un de ses affluents. Aux oiseaux mangeurs de cadavres s'ajoutaient par conséquent les oiseaux fluviaux, comme les martins pêcheurs qui s'épanouissaient même en ville. Il y avait un plaisir troublant à voir leurs couleurs éclatantes jaillir dans des zones sinistrées. Au jardin, je découvris l'alouette à tête rousse, la bergeronnette du Bengale et l'hirondelle fluviatile. Ces passereaux ne différaient guère de leurs équivalents occidentaux, à ceci près qu'ils ne pratiquaient pas la migration. Pourquoi auraient-ils quitté un pays où l'hiver, la température, ne descendait jamais en dessous de 20 degrés? À l'échelle de ma vie, j'en arrive à un épisode qui me plonge dans la perplexité la plus absolue. Comme la plupart des gens, j'ai connu des moments que l'on pourrait dire d'éveil. Ce n'était pas le Satori, bien sûr, mais c'était à chaque fois le Kensho. Éveil qui, pour ne pas être définitif, sépare le temps en un avant et un après. Par définition, on se rappelle un tel instant, surtout moi qui ne manque pas de mémoire pour ce genre de sacre. Or, je n'ai pas de trace de souvenir de cet éveil-là. Peut-être parce que les symptômes en furent d'une banalité sans nom. Le front collé à la fenêtre, j'observais les oiseaux du jardin. J'extrapole puisque cet instant m'a échappé. Toujours est-il qu'il y eut un avant et un après. Il m'a paru que l'oiseau était la clé de mon existence. Jusqu'alors, je m'étais passionnée pour l'espèce aviaire. Désormais, c'était au-delà. L'oiseau serait mon mystère. Il n'y avait pas d'explication. La magie opéra aussitôt. L'oiseau devint permanent en moi. Tout se passa comme si j'avais brusquement acquis la vision latérale. Je le vécus à la manière d'une révolution. Voir le monde sur les côtés, c'était si neuf qu'il n'y avait rien à en dire. Par ailleurs, comment ne pas avertir mon entourage qu'il m'était arrivé un événement si bouleversant? Comment le nommer? Les mots qui me venaient étaient dérisoires. Je savais que je venais de changer de dimension. À table, je déclarais « J'ai découvert les oiseaux ». Personne ne releva une sottise pareille, sauf mon père qui se montra plus insistant. Pourquoi ? Je restais le bec dans l'eau. Parce que l'oiseau symbolise la liberté ? Suggéra-t-il. Voilà, répondis-je. Mon père acquiesça gravement. Je savais que ce n'était pas ce que je ressentais. Si l'oiseau symbolisait la liberté, ce devait être une erreur. Il ne devait pas être si libre qu'on se le représentait. Et surtout, ce n'était pas la cause de ma métamorphose. Celle-ci me restait inconnue. La liberté, je la convoitais, certes. Mais j'avais l'instinct qu'elle n'était pas ce que l'on croyait. L'oiseau en vol donne une puissante image de liberté. Mais cette liberté, il devait la conquérir au prix d'efforts terribles. Martha Argerich, quand elle joue Chopin, donne elle aussi une puissante image de liberté. Son visage amusé semble le confirmer. Faut-il rappeler les années de pratique ingrate dont elle a eu besoin pour atteindre ce niveau? Chaque année, au moment de leur apprendre à voler, les parents oiseaux perdent une proportion considérable d'oisillons. L'envol demeure un enjeu capital qui s'acquiert au prix de la vie. Encore faut-il l'entretenir une fois qu'il est obtenu. Pas question de s'octroyer un jour sans voler. La musculature nécessitée par cette activité demande un entraînement intensif. où l'on ne peut se permettre aucun relâchement. Voler suppose en outre une quantité énorme de carburant. L'expression « manger comme un oiseau » est le sommet du contresens. L'oiseau doit manger 3 fois son poids par jour s'il veut voler autant qu'il le doit. Il lui faut rechercher du matin au soir des doses colossales de nourriture. Imaginons que nous devions chacun nous procurer 3 fois notre poids d'aliments par jour. Nous passerions notre existence entière au supermarché. Si tel devait être notre destin, nous ne nous tiendrions certainement pas pour libres. Au moins, la réponse paternelle m'offrit-elle un prétexte honorable. Mon obsession aviaire fut interprétée en termes de quête libertaire. J'entendis mon père dire à ma mère qu'avoir vécu en des pays dictatoriaux, tels que la Chine populaire, avait dû m'ouvrir très tôt les yeux sur la privation de liberté endurée par tant d'individus. Loin de moi l'idée de minimiser l'horreur côtoyée dans la Chine de Mao. Pourtant, j'atteste que l'obsession neuve ne lui était pas reliée. Je me mis à observer les oiseaux partout, y compris dans les livres. La planche des oiseaux du Larousse, que je connaissais déjà par cœur depuis longtemps, fut consultée 10 fois par jour. Elle n'avait rien à m'apprendre, mais j'avais trop besoin de contempler certaines espèces. À Noël, je reçus le guide des oiseaux d'Europe, publié chez Bordas. Mon frère ricana. « Les oiseaux d'Europe, ça te fait une belle jambe ? Ce ne sont pas ceux que tu vois ici. » Il se trompait. Le cadeau m'enchanta. Si les parents m'avaient offert un guide des oiseaux d'Antarctique, j'aurais été également enthousiaste. Je n'avais pas besoin de vérifier les créatures de mon entourage encore, que j'y aurais éprouvé le plaisir redoublé de voir confirmer mes observations par le savoir d'illustres prédécesseurs. Les oiseaux, je devais les constater, prendre acte de leur existence. C'était infiniment plus important que de les répertorier, même si cette opération ne manquait pas de charme. Constater les oiseaux relevait pour moi de la métaphysique. Il nous était donné de côtoyer au quotidien un règne à ce point hallucinant. Ne pas y consacrer son attention entière était inconcevable. À quoi bon rêver d'anges et de chimères quand il existe pour de vrai une créature qui dépasse notre entendement? Le plus ravissant des séraphins est moins beau que le plus humble des accenteurs mouchets. Ces considérations, je les écris aujourd'hui. J'aurais été incapable de les formuler à l'époque. À 11 ans pourtant, j'étais un être de langage comme la plupart des enfants. L'obsession neuve fut ma première incursion dans le non-verbal. Je ne pouvais pas commenter, même pas d'un mot unique, l'univers aviaire. Je ne pouvais pas m'en parler à moi-même. Jusqu'alors, mes centres d'intérêt avaient toujours été incorporés dans ce que j'appelais l'histoire, le récit ininterrompu que je me narrais en secret. C'est sans doute pour cette raison que mon éveil à ce monde m'a échappé. Habituée à me raconter les péripéties de mon existence, je me retrouvais dans une situation où les mots n'approchaient aucunement la perception. Découvrir les oiseaux, ce fut découvrir la sidération. C'était tellement puissant qu'il m'est toujours aussi difficile d'exprimer ce trouble par le langage. Il y a des millions d'années, un dinosaure a conçu le désir délirant de voler. Ce pachyderme a mis en place un processus de dément dans le but d'accomplir un rêve improbable. Quelle que fût son intelligence, il devait sentir qu'à supposer que cela se réalise un jour, ce serait au terme d'une durée si formidable qu'il n'en profiterait pas, ni lui, ni ses enfants, ni ses arrière-petits-enfants. Mesure-t-on ce qu'il faut d'idéal, de candeur, de courage, de longanimité et de fulgurance pour se lancer dans une aventure pareille? Il me semble qu'à ce moment-là, il m'a brusquement été donné d'entrevoir la grandeur de cette décision. Depuis l'apparition du dinosaure jusqu'à celle du premier dinosaure volant que l'on appelle Archaeopteryx, s'écoulèrent 80 millions d'années. Une telle durée nous écrase. Entrevoir une patience aussi sublime, c'est soupçonner le principe moteur de l'univers. Ce qui permet de tabler sur un infini pareil, c'est le désir. On a tendance à opposer celui-ci à la disposition. D'instinct, je crois peu aux dons. Je ne nie pas qu'ils existent, je doute de leur efficacité. J'ai rencontré des gens doués, ils avaient tendance à s'énerver de ne pas être reconnus assez vite. Il est rare que la disposition incite à la patience. Celle-ci ne peut germer que dans un destin digne de ce nom. Un désir qui dure 80 millions d'années et qui persévère puisque l'archéoptérix n'a été qu'une étape. Voilà qui inspire le respect. A posteriori, j'interprète mon éveil à l'oiseau en termes de désir. Et si cela m'est échappé sur le moment, la suite l'a confirmé. Formulons ainsi ce qui a dû me frapper. N'éprouve pas de désir inférieur à celui de l'oiseau. Auparavant, j'avais des velléités comme n'importe quel enfant. Un jour, je rêvais d'un métier à tisser. Le lendemain, je voulais jouer de la guitare. Loin de moi l'idée de dénigrer cette tendance qui correspond à la vitalité du premier âge. Dès l'instant où l'obsession aviaire est entrée en moi, ces caprices enfantins ont disparu. Ils ont laissé place à un vide énorme, puisque j'étais incapable de déterminer les tenants et les aboutissants de cet éveil. Pour simplifier, je dirais qu'avant, j'étais un œuf. J'ai toujours eu une prédilection pour les œufs. Aujourd'hui encore, c'est mon aliment préféré. J'ai d'ailleurs essayé, il y a 25 ans, de ne me nourrir que d'œufs. Le résultat fut catastrophique. Cela ne m'a pourtant pas dégoûté de mon aliment fétiche. À 11 ans, l'œuf a éclos. Ce fut une éclosion véritable, très difficile et angoissante. Imaginez, vous avez toujours été un œuf. C'est si agréable, vous êtes au chaud dans votre coquille qui est confort et bienveillance, et soudain, celle-ci se fissure et éclate. Vous vous retrouvez à l'air libre, sans même un plumage pour vous protéger. Expérience saumâtre. Vous attendez de recevoir des directives. Problème ? Personne ne m'en adressa. Ce n'est pas un reproche à mon entourage, qui eût pu se douter de ce qui m'arrivait. Je n'avais pas l'air anxieuse. J'eus le bon instinct. Ne sachant à quoi employer cet état, je décidai d'étudier ce qui me l'avait inspiré. Lire les manuels d'ornithologie s'avéra mieux qu'un passe-temps. C'était une source d'étonnement sans fin. La simple diversité de l'espèce avait de quoi m'occuper. Que l'oiseau se décline de la mésange rémise au gypaète barbu, en passant par la sterne arctique et la citelle torche-peau, avait de quoi surprendre. La nomenclature se faisait l'écho de la difficulté d'une classification. L'un de ces individus fut baptisé sur la foi de sa prédation, l'autour des palombes. On l'appelait simplement un autour. N'était-ce pas merveilleux? Moi aussi, on aurait pu me désigner ainsi, une autour des oiseaux. Je n'étais pas prédatrice, mais admiratrice. Je trouvais de quoi nourrir mon obsession dans les manuels, dans le dictionnaire et dans la réalité. Les sorties hors de la maison devenaient moins atroces. Au lieu de regarder les mourants omniprésents, je contemplais les oiseaux. Au jardin, il y avait des tisserins. J'observais leur nid avec extase. Pouvait-on imaginer logis plus protecteur? Ceux-ci échappaient aux attaques des corneilles et des serpents. Il fallait voir l'habileté avec laquelle les becs entremêlaient les brins de paille ou de jonc pour tisser ces poches habitables, dont la porte longue et mince n'était accessible que pour leur sveltesse.